Croix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis ravi de vous retrouver et de commencer une nouvelle semaine à vos côtés, jusqu'à 16h et en direct, accompagné comme chaque jour par ma camarade Mongline. Comment allez-vous?
Bonjour
ma chère
Olivier, bonjour à tous, ça
bonjour.
Va bien, merci.
Pendant cette heure, nous vous écoutons, nous partageons vos expériences de vie, votre vécu nous intéresse toujours autant chaque jour. Les enfants ne devraient jamais être confrontés aux maladies graves. Pourtant, les maladies pédiatriques, c'est le quotidien de presque un enfant sur 500. Celui aussi de leurs parents, de leur famille. À quoi ressemble leur vie? Comment gère-t-on l'angoisse, les traitements lourds, la douleur? Que l'on soit parent, enfant ou adolescent malade, comment faire face? C'est le sujet de la série Les Bracelets Rouges diffusée sur TF1. La saison 2 est de retour ce soir à 21h.
Si je me suis énervé juste avant l'IRM, ça va se voir? Non mais genre dans ma veine ça va gonfler et tout?
Non, ça n'a rien à voir Mehdi, allonge-toi.
Non parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas que je m'énerve. Et là je me suis énervé juste avant. C'est de la triche ça.
Non en fait, c'est maintenant qu'il faut que tu sois calme. Tu te rappelles de ce qu'on a dit tout à l'heure, quand ça démarre, il faut plus bouger du tout. Tu te souviens?
D'accord.
Allez allonge-toi.
Non parce que les gens après ils me prennent pas au sérieux. Moi après les gens quand ils me prennent pas au sérieux, forcément je suis obligé de m'énerver. T'es d'accord avec moi ou pas?
Alors, enfants malades, comment vivre malgré l'épreuve? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et dès ce lundi, n'hésitez pas à composer le 39 21 50 centimes la minute. C'est le standard d'Europe 1. Vous réagissez bien sûr sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et puis par Twitter, hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Céline sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Céline, quel âge avez-vous? Bonjour. Et d'où nous appelez-vous?
Je suis Céline, j'ai 30 ans et je vis en Loire-Atlantique.
D'accord. Alors Céline, vous êtes la maman de Gabin qui a aujourd'hui 4 ans et demi. Oui. À ses 3 ans, vous avez appris qu'il était atteint d'une leucémie. Pouvez-vous nous dire ce qu'est cette maladie avant toute chose?
La leucémie, c'est un cancer de la moelle osseuse.
Oui, et ça se traduit comment? Par quels symptômes?
Il y a beaucoup de symptômes différents. Nous, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est la température qui ne partait pas, des nombreuses infections.
Oui.
Il avait une infection pulmonaire, une otite. C'était un manque de globules blancs, un manque de globules rouges principalement.
Il y a eu le diagnostic suite à tous ces symptômes. Quand on vous a dit que votre petit gamin souffrait d'une leucémie, comment avez-vous réagi? Qu'est-ce qui passe par la tête à ce moment-là?
Plus rien.
Plus rien.
Il n'y a plus rien qui passe. J'ai mon conjoint qui a pensé qu'on avait un deuxième enfant.
Oui.
C'était bien de sa part. Et qui a demandé si c'était héréditaire, si notre deuxième enfant avait aussi des risques. Et après, on se laisse bercer, en fait. On nous dit plein de choses qu'on ne comprend pas forcément. On nous parle de chimio, on nous parle de protocole d'expérimentation, on nous parle de beaucoup de choses. Et en fait, on suit le mouvement, principalement. Mmh. On nous dit que c'est le cancer pédiatrique le plus répandu, le plus connu, celui qui soigne le mieux.
Oui.
Donc, on se dit que... Dans notre malheur, on a eu de la chance, on a le moins pire.
Mmh. Alors je sais que tout s'est enchaîné très vite pour vous, que vous avez eu à peine le temps de réaliser ce qui est arrivé à Gabin, vous et toute votre famille bien sûr. Vous saviez tout de même que ça allait être long. Vous vous êtes mis en ordre de marche avec votre conjoint, un peu comme des conquérants.
On nous a expliqué au fur et à mesure. On nous a dit que grosso modo, ça allait durer 2 ans de traitement, qu'il serait déclaré guéri au bout de 5 ans. Mais on nous a expliqué au fur et à mesure pour ne pas nous abrutir avec une tonne d'informations qu'on ne comprenait pas vraiment, pour nous préserver aussi. Mais on s'est dit, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut y aller. Donc on avait un plan de bataille, donc c'était déjà rassurant.
Alors Gabin a été hospitalisé très vite, l'hôpital, les traitements. Comment a-t-il vécu cela, Gabin?
Très bien, très bien. On l'a préservé, on a essayé de tout tourner à la dérision. Les hospitalisations, on lui disait que c'était vraiment cool, qu'il n'y avait que papa et maman pour lui, que son petit frère lui piquerait pas ses jeux.
Ouais.
On a essayé de tout tourner comme ça en montrant un côté positif qu'on essayait de trouver tant bien que mal. Mmh. Et il s'y plaît beaucoup à l'hôpital et en général, il fait la tête quand il faut ressortir.
Ouais. Alors on sait que les enfants mettent de la magie partout, mais nous, parents, c'est plus compliqué pour nous. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à supporter ?
Le préserver du risque que c'est une maladie qui peut être fatale. Mmh. Que même si aujourd'hui il va bien, demain tout peut basculer.
Ouais.
Qu'on n'est jamais à l'abri de rien.
Mmh.
C'est surtout ça.
Ouais. À l'époque, vous ne travaillez pas, vous avez songé à reprendre un emploi, hein, je crois, pour vous changer les idées. Mais
oui.
Finalement, vous avez décidé de bah, non, que ça n'était pas le moment. Pourquoi ? Pour continuer à être proche tout le temps de Gabin ?
C'est que le rythme de vie est compliqué, parce que tout se fait d'après Gabin. D'une prise de soin à l'autre, tout peut basculer. Donc, il peut être hospitalisé, il peut ne pas aller à l'école, il peut... On ne sait jamais de quoi demain est fait.
Mmh.
Donc, j'ai quand même repris un emploi psychologiquement, parce que rester dans ce quotidien de parents d'enfants malades, c'était très compliqué.
Ouais.
Mais j'ai repris un emploi de vente à domicile pour pouvoir être justement... me consacrer à Gabin principalement et à son frère.
Mmh. Et votre,
parce qu'on n'a pas le choix.
Votre conjoint travaille lui aussi ?
Oui.
D'accord. Ça fait du bien à la tête, je pense, lorsque on traverse ce type d'épreuve, de partir au travail et d'oublier quelques instants ce qui nous est tombé sur la tête. C'est comme ça que vous le vivez ?
Oui, puis parler à des gens. D'autres choses que la maladie, parce que c'est vrai qu'on est confronté, on ne parle qu'à des parents d'enfants malades. Mmh, donc,
Restez en ligne avec nous, Céline. Nous allons continuer de parler de votre quotidien avec Gabin, avec votre conjoint, avec son frère aussi, et voir comment Gabin va aujourd'hui, et puis comment vous tous, vous allez aujourd'hui.
Europe 1. Comment réussir à vivre quand son enfant est malade, hospitalisé ? Comment l'accompagnez-vous ? On a envie de vous entendre sur Europe 1 au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 et nous parlons des enfants malades. Comment vivre malgré l'épreuve ? C'est votre histoire ? Vous nous la racontez aujourd'hui au 39-21.
Et nous sommes toujours en ligne avec Céline qui nous expliquait comment... l'arrivée de la maladie au cœur de la famille avec la leucémie de son fils Gabin eh bien, avait bouleversé la vie de cette famille. Et justement, Céline, arrive-t-on à garder une vie de famille dans ces cas-là ? Est-ce qu'on arrive quand même à s'aérer la tête aussi ?
C'est très compliqué.
Oui.
Pendant des mois et des mois, on n'est plus un couple, on est des colocataires, on ne vit pas ensemble, on ne dort pas ensemble la plupart du temps, parce qu'il y en a un qui est à l'hôpital avec le grand et un à la maison avec le petit.
Mmh.
On essaie de garder une fratrie unie avec un petit frère qui est vraiment très petit, donc il ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Quand Gabin est tombé malade, il avait 12 mois.
Ouais.
Donc ils ne se sont pas vus pendant 7 semaines, le temps de la première hospitalisation. Maintenant, ça va mieux parce qu'on arrive à reprendre un semblant de vie normale.
Oui.
Mais voilà, c'est au jour le jour.
Ouais. Bon, c'est toujours le jour, mais il y a quand même un espoir qui est là pour Gabin, puisque aujourd'hui, cela va mieux. Et toute la question que ceux qui nous écoutent là se posent, c'est Gabin peut-il guérir définitivement ?
Oui.
Ouais.
Oui, Gabin va bien, les médecins sont confiants, il réagit très bien au traitement et il y a des guérisons complètes, c'est la plupart des cas.
C'est la plupart des cas. Est-ce que,
voilà, c'est une maladie qui se soigne très bien.
Cette épreuve, elle vous a beaucoup soudé. Hein, on parle du noyau dur de votre famille. Alors ça dépasse la maison là. Expliquez-moi, chacun y a mis du sien dans ce chemin que vous avez mené ensemble ?
Oui, quand il arrive ce genre de choses, c'est vrai qu'on voit, il y a des personnes qui sont vraiment importantes, qui viennent à la maison, qui nous soutiennent, à qui on peut parler, qui acceptent la discussion sur la maladie, parce que c'est pas donné à tout le monde.
Ouais.
Il y a des personnes qui sont vraiment proches de nous, qui nous aident, ne serait-ce que nous faire des petits plats pour nous emmener à l'hôpital, pour garder notre petit, pour nous accompagner des fois en hospitalisation parce qu'on va moins bien, pour nous rendre visite.
Mmh.
Non, c'est vraiment... on a vraiment beaucoup de chance.
Mais vous dites aussi que dans cette épreuve, certaines personnes... Vous avez perdu certaines personnes. Vous avez été surprise de voir que certaines personnes dont vous n'attendiez pas ce type de comportement, eh bien, se sont éloignées. De quelle manière ça s'est passé, ça ?
C'est que du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles. Ou alors, ils prennent... Enfin, la maladie fait peur, surtout quand il s'agit des enfants. Les gens n'ont pas forcément envie d'y être confrontés et à croire que c'est contagieux, alors que pas du tout.
Est-ce que c'est vraiment la peur de la contagion ou c'est l'embarras de ne pas trouver les mots, de ne pas savoir quoi dire ? Parce que lorsqu'un enfant est malade, c'est vrai, c'est comme la perte d'un enfant, en fait. C'est quelque chose de difficile à accepter et puis c'est compliqué de trouver les mots pour certaines personnes.
Oui, on a bien fait la différence entre les gens qui n'osaient pas par peur de ce qu'on allait aussi leur dire. Mmh. Et on ne peut pas demander à quelqu'un comment ça va si ça ne va pas.
Oui.
Les gens qui ont peur d'être maladroits et les gens qui, pour X ou Y raisons, qui leur sont propres et honnêtement, on n'a pas envie de se fatiguer non plus avec ça, qui ont disparu.
Bon, en tout cas, ça vous a permis aussi, mais ça n'était pas l'essentiel, bien évidemment, de voir qui étaient vos vrais amis sur qui vous pouviez compter. Et votre couple, comment a-t-il survécu à cette épreuve ? Est-ce que votre couple a été impacté ? Est-ce que votre vie de femme a été impactée dans cette épreuve ?
Ça aurait pu, mais on a de l'aide et puis on est très soudés tous les deux. Donc ça aurait pu, mais on gagne, là aussi.
On gagne parce que Gabin va bien aujourd'hui. Il va bien aujourd'hui. Comment se porte-t-il, ce petit bonhomme ? Comment vit-il cette épreuve, lui, du haut de ses 4 ans et demi ?
Il va très bien. Il a quasiment vécu toute sa vie de conscience avec la maladie. Donc, pour lui, ça ne lui pose pas de problème. Il est conscient de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire. Mmh. Et ils sont contents.
Quand vous dites voilà. De ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Par exemple, il y a par exemple des épreuves sportives qu'il ne peut pas faire, rater l'école.
Non,
enfin...
c'est manger le gâteau d'anniversaire à l'école qu'une maman a préparé, c'est jouer dans le bac à sable, c'est jusqu'à récemment aller à la piscine ou à la plage parce que les copains y allaient et pas lui. C'est ne pas manger partout parce qu'il a des restrictions alimentaires. Mais ils sont contents.
Bon. Et vous aussi, visiblement.
Oui, il est très malin, il comprend.
Vous aussi, visiblement, en tout cas. Merci beaucoup, Céline, de nous avoir fait partager votre histoire. Et puis, bien évidemment, tout Europe 1 embrasse Gabin cet après-midi et vous embrasse, vous aussi, toute la famille. Et vous souhaite plein de courage. Mais bon, voilà, tout ça a l'air très bien parti. Et en tout cas, on a plein d'espoir. Dans un instant, nous allons accueillir Muriel de Rome. Elle est psychologue en service pédiatrique et a écrit l'ouvrage « Le courage des Lucioles, ma vie de psychologue auprès d'enfants à l'hôpital » aux éditions Philippe Ray.
Et il y a Angie qui témoigne sur Facebook, j'espère que je prononce bien son pseudo Angie, et qui a la question « Comment vivre malgré l'épreuve ?» Elle dit « Eh bien, on n'a pas le choix, notre fils est malade, il nous a montré lui-même le chemin à prendre, et ses frères aussi. »
Europe 1.
Comme Céline, votre enfant est atteint d'une maladie grave. Comment fait-il face ? Comment vous arrivez-vous à vivre malgré l'épreuve ? Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, Twitter, hashtag Europe 1. Maladie orpheline, votre enfant est hospitalisé, comment arrivez-vous à faire face ? Cela vous est arrivé lorsque vous étiez enfant, vous nous racontez également. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 39-21 pour nous appeler.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Muriel de Rome, psychologue en service pédiatrique. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci de votre invitation.
Mais je vous en prie. Beaucoup de parents d'enfants malades parlent de combat. On l'a vu dans le film « La guerre est déclarée » de Valérie Donzelli. Se mettre dans la peau d'un guerrier lorsque son enfant est malade, c'est une façon de faire face, de se blinder ?
En tout cas, c'est une vision qu'ont très souvent les adultes,
ouais.
Avec cette idée qu'il faut être toujours dans le combat. Mm-hmm. À la fois, ça peut aider certaines personnes, cette image, et en même temps, elle peut être dangereuse, parce qu'il y a certaines choses, certains moments où on ne peut pas être toujours dans le combat. Le combat entraîne une certaine maîtrise. Et si vous voulez, si je prends une image... Parfois, on se bat contre la maladie comme si on était en train de se noyer dans l'eau et on essaye de faire des mouvements pour s'en sortir de façon permanente.
Oui.
Et parfois, c'est le lâcher-prise qui va permettre de réaliser qu'il y a un fond dans la piscine, vous voyez, et de repartir et de retrouver de l'élan.
Mmh.
Donc, je ne sais pas si je suis très claire dans mon image, mais à la fois, il y a une notion de combat, mais il y a aussi des moments où il faut savoir lâcher prise. Et malgré tout, c'est aussi une histoire de confiance, d'oser la confiance, de donner sa confiance à des soignants, parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans la maîtrise et tout le temps dans le contrôle de ce qui va se passer, puisque par définition, la maladie nous plonge dans un monde où on ne peut plus contrôler les choses.
Et dans le prolongement de ce que vous nous dites, j'aimerais souligner aussi que l'acteur principal, c'est l'enfant, et que souvent, l'espoir, la force passe tout d'abord par l'enfant qui souvent est le premier à remonter le moral de tout le monde, à prendre conscience de sa maladie. Et puis je disais tout à l'heure que les enfants mettaient de la magie partout, mais souvent on voit des enfants donner de la force à leurs parents qui sont, comme vous le dites, à se débattre, à faire des gestes et se transformer en guerriers. Et j'ai souvent vu des enfants apaiser leurs parents à ce niveau-là.
Oui, c'est vraiment étonnant de voir que les enfants sont finalement bien plus capables que nous, adultes, de vivre des situations qui seraient insupportables pour nous. Et eux le vivent de façon très étonnante parce qu'ils gardent une force de vie incroyable, même au cœur de maladies extrêmes ou terribles,
mmh.
Et notamment parce qu'ils vivent l'instant.
Justement, allez-y.
Quand il y a des moments difficiles, ils l'expriment,
ouais.
Et quand c'est terminé, ils ne sont plus à se dire « Ouh là là, je vais avoir mal » ou « Qu'est-ce que j'ai eu mal ?» Vous voyez, ils sont dans l'instant et quand ça va mieux, ben ça va mieux.
Mm-hmm.
Et donc, ils passent de la légèreté au grave, du grave au léger et ils alternent de façon très étonnante pour nous adultes. Et j'aime bien cette notion de magie que mettent les enfants dans le quotidien. Je trouve que c'est assez juste, mm-hmm. comme façon de voir les choses.
Et est-ce justement pour cela aussi, parce que lorsque vous dites que les enfants sont dans l'instant, alors que nous, adultes, on est en permanence à se projeter. Est-ce pour ça qu'il faut absolument réussir à sortir de ce sentiment d'injustice qui semble inévitable lorsque cela nous arrive à nous, parents ?
Ouais. C'est-à-dire que nous, adultes, en tout cas, pour beaucoup d'adultes, on est tout le temps dans le pourquoi.
Ouais.
Pourquoi c'est arrivé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On cherche, on peut être comme ça... presque tyrannisé par nous-mêmes à la suite d'un éternel pourquoi, alors que cette question du pourquoi peut être très stérile et même nous ronger de l'intérieur.
Mm-hmm.
Ce qui est intéressant, c'est de passer du pourquoi au comment.
Oui.
Comment vivre cette maladie ? Comment garder un élan de vie avec un rythme de vie particulier, puisqu'il sera marqué par les hospitalisations, par les traitements, par un entourage qui sera différent. Vous voyez, c'est toujours se poser la question du comment vivre,
mm-hmm.
les choses, qui est beaucoup plus intéressante que le pourquoi, qui peut faire beaucoup de mal.
Alors justement, Muriel de Rome, comment écoutez-vous ces parents ? Comment accompagnez-vous ces enfants malades au quotidien ? Est-ce que c'est une écoute particulière ?
Ben, si vous voulez, je crois que d'abord l'écoute, c'est important. On a beaucoup progressé dans la prise en charge de la douleur de l'enfant, la douleur physique, mais pas encore beaucoup sur la prise en compte de la souffrance de l'enfant.
Mmh.
C'est-à-dire que quand vous observez, même nous adultes, quand quelqu'un commence à vous dire qu'il ne va pas bien, qu'il a des soucis, soit vous dites « mon enfant, j'ai l'impression qu'il a quelque chose », et l'autre vous dit « ah oui, moi aussi ». voyez, oui. Il commence dans son histoire, ou l'autre attitude, c'est de dire « mais non, tu vas voir, ça va aller très bien », etc. Mmh. Et en fait, ces deux attitudes que nous avons très souvent n'est pas une vraie écoute et ne rassure pas. Ce qui va rassurer, c'est de laisser la personne aller jusqu'au bout de ce qu'il habite intérieurement. Mmh. Et donc, par exemple, c'est intéressant de noter que dans un couple, on a souvent deux mécanismes de défense opposés pour tenir le coup. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va dire « moi, c'est un jour après l'autre.
Oui.
Voilà. Aujourd'hui, je fais face à cette situation et puis demain, on verra. Mmh. » Et souvent, l'autre personne, plus généralement la femme, mais ça peut être l'inverse, va faire avoir besoin exactement de l'opposé, c'est-à-dire se préparer au pire, et au pire du pire du pire. Et je me souviens de cette maman à qui on avait juste annoncé une maladie voilà, qui n'était pas du tout dans une forme très très grave, qui m'a dit « maintenant, ça y est, j'ai besoin de parler avec vous de l'endroit où je vais enterrer mon enfant et de ce que je vais dire à l'enterrement. » Comme ça, je pourrais retourner auprès de mon enfant et je serais complètement disponible pour lui. Mmh. Vous voyez ? Donc ça, c'est très étonnant, mais on observe à la fois ce fonctionnement-là et ce fait, et le fait que souvent dans le couple aussi, il y a un minimiseur d'angoisse et un maximiseur d'angoisse. Donc les rôles se répartissent un peu comme ça, mais si on inverse les rôles, si celui qui est tout le temps angoissé se met à dire « mais non, finalement, ça va peut-être bien se passer, mm-hmm. on exagère peut-être », et ben l'autre commence à être l'autre rôle, vous voyez. Mm-hmm. Donc,
parce que je rappelle que votre rôle est d'accompagner aussi ses parents à les préparer lorsque ses enfants succombent à leur maladie. Céline nous disait en première partie d'émission que des membres de son entourage s'étaient éloignés d'elle. Pour les parents, c'est un peu la double peine quand il arrive ce genre de choses.
Bien sûr, parce que c'est vraiment un tri dans les relations, en fait. Hein.
Oui.
Certains proches vont s'avérer être toxiques, c'est-à-dire être très soit de par leur malaise, soit la peur de blesser, la peur de mal faire, va faire qu'en fait ils vont disparaître ou alors ils vont devenir toxiques, c'est-à-dire dans le sens vraiment rendre les choses plus lourdes, plus difficiles. Mmh. Et donc il va falloir, même si ce sont des proches, s'éloigner de ces personnes-là parce qu'on ne peut pas tout gérer en tant que parent. Et par contre, on va aussi rencontrer des personnes qui étaient peut-être inconnues jusque-là ou pas spécialement proches, qui vont être des personnes très soutenantes, très présentes, très attentives, très à l'écoute, et qui vont laisser justement la personne dire ce qu'elle vit,
oui.
Et en même temps, pas être que dans la maladie, vous voyez ?
Parce que c'est tout bonnement difficile d'épauler un proche qui a un enfant malade ou trouver la bonne attitude, ça n'est pas toujours une évidence. Vous restez en ligne avec nous, Muriel Dorham. Je rappelle que vous êtes psychologue en service psychiatrique et auteur de l'ouvrage « Le courage des Lucioles, ma vie de psychologue auprès d'enfants à l'hôpital ». Dans quelques instants, nous serons avec Nicolas. Il a eu un cancer osseux lorsqu'il était enfant et en garde encore des séquelles aujourd'hui.
Et le témoignage de Katia sur Facebook, dont la fille est atteinte de toxoplasmose. On survit plus qu'on ne vit, mais heureusement ma puce est la joie de vivre incarnée malgré le fait qu'elle devienne aveugle.
Europe 1.
Comment améliorer le quotidien d'un enfant malade, d'un enfant à l'hôpital ? On vous écoute au 3921. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Comment bien accompagner les enfants malades au quotidien ? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
T'es arrivé quand ?
Ce matin.
Ah ouais, mais l'hôpital, tu sais pas ce que c'est. T'as même pas passé une nuit ici. T'as jamais imaginé la vie de tes parents sans toi. T'as jamais vu de proches mourir. Et puis même toi, tu t'es jamais réveillé en pleine nuit en ayant la peur de mourir. Alors, je souhaite pas que ça t'arrive, hein, mais viens pas me parler de l'hôpital comme si tu savais ce que c'était.
Extrait des Bracelets Rouges, diffusé ce soir à partir de 21h sur TF1. La saison 2 est de retour. Les Bracelets Rouges, à ne pas manquer parce que c'est le quotidien de ces enfants, le quotidien de ces enfants malades à l'hôpital. Nous sommes en ligne maintenant avec Nicolas. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Nicolas.
Bonjour, merci beaucoup.
Vous nous appelez de très loin, hein, je crois. Où êtes-vous exactement ?
Oui, tout à fait. Alors, en ce moment, je suis à Philadelphie.
Vous êtes à Philadelphie, d'accord. Et quel âge avez-vous, Nicolas ?
38 ans.
38 ans. Alors, en avril 1996, alors que vous aviez 15 ans, on vous a diagnostiqué un cancer osseux. D'abord, qu'est-ce qu'un cancer osseux et que vous a-t-on dit exactement ?
Et un cancer osseux, c'est lorsque une masse généralement cancéreuse se mettent à pousser sur un os du corps. Ça peut être une jambe, ça peut être un bras, ça peut être la colonne vertébrale. Pour moi, c'était la jambe droite.
Oui.
Le diagnostic s'est fait, je dirais, en étapes successives. D'abord des douleurs, une masse qui m'empêchait de faire du sport. Je faisais du basket à l'époque, j'étais dans l'équipe du lycée. Oui. Un médecin, et puis ensuite de ça... des radios, puis un IRM, puis la biopsie, puis là, le diagnostic tombe.
Alors, j'imagine que la tempête à 15 ans, ça, c'est un cancer osseux, ça doit être totalement la tempête. Vu que vous étiez assez sportif en plus, hein, vous étiez un jeune homme très actif. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ?
Surtout beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Qu'est-ce qui va m'arriver?
Est-ce que je vais mourir?
Tout à fait, oui. Ouais. Déjà, on vous le dit.
C'est-à-dire?
On vous le dit, puisque c'est mon oncologue, en fait, mon oncologue, qui m'a dit très clairement, tes chances de survie sont de 50%.
D'accord.
Donc, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, voilà.
Mm-hmm. Est-ce que, avec du recul, là, aujourd'hui, à 38 ans, que votre oncologue vous ait révélé cela? Que vous aviez 50% de rester en vie. C'est quelque chose qui... Comment vous y pensez aujourd'hui? Est-ce que ça a été une force? Est-ce que c'était bien qu'ils vous le disent?
Je pense que oui. Je pense que oui, parce que quand ça vous arrive, même si vous avez 15 ans, vous êtes projeté tout de suite dans la vie d'adulte, dans les responsabilités d'adulte. Et donc, j'étais content que le médecin soit transparent avec moi et me donne les faits tels qu'ils sont. Mm-hmm. Je pense qu'on s'accroche aux 50%. Je pense que même s'il m'avait dit 40, 30, 20, 10, on s'accroche à ça. Alors, ça dépend des jours, mais les bonnes journées, on s'accroche à ça, ouais.
Mmh. Comment votre famille, vos amis vous ont-ils accompagné alors à partir du moment où ce diagnostic est tombé? Comment avez-vous été entouré? Comment vous ont-ils porté?
C'est sûr que c'était très difficile pour mes parents, ma famille. J'ai trois sœurs à l'époque, j'en avais deux, des petites sœurs qui comprenaient un peu ce qu'elles pouvaient. Mes parents, alors paradoxalement, en tant que patient, je pense que moi, j'ai entendu « j'ai 50% de chance de survivre ». Mes parents, clairement, ils ont entendu « il a 50% de chance de mourir ». Et donc, on vit ça un peu ensemble, mais différemment.
Ça fait, ça fait écho à ce que disait Muriel de Rome tout à l'heure, que les parents sont... plus tout de suite dans pourquoi moi, pourquoi cette injustice, alors que l'enfant est plus dans l'instant. J'ai 50% de pouvoir continuer à vivre. Vous l'êtes dit ça, pourquoi moi? Vous avez réussi à dépasser cela à l'époque?
Oui, tout à fait. En fait, pourquoi moi, d'un point de vue même spirituel, en fait, je me suis dit pourquoi moi, 15 ans, j'ai pas encore vécu, j'ai jamais fumé, jamais bu d'alcool, je suis sportif, je vais à l'école, pourquoi j'ai une maladie.
Mmh. Aujourd'hui, vous vous considérez comme quelqu'un de très chanceux, puisque vous allez mieux, ce cancer a eu un impact sur votre vie. Quel est-il cet impact aujourd'hui?
C'est sûr qu'on voit la suite différemment. Comme vous le disiez, je me considère extrêmement chanceux. Je me plains vraiment pas de mon sort. Je me considère comme un survivant, ce qui peut parfois donner un peu des complexes, mais il faut vivre avec. Et puis, c'est sûr que je pense qu'on est toujours, en tout cas moi, la façon dont je vois les choses, c'est que quand on a eu un cancer, on reste toujours un survivant. On est guéri, mais on prend toujours ça avec des pincettes, même 20 ans après. Et puis, quand je parle avec mes parents, par exemple, au téléphone, c'est sûr que si je tousse ou je leur dis que je suis fatigué, eux, c'est la première chose à laquelle ils pensent. Donc, on reste toujours dans cet univers, en fait. Mmh. On est toujours un survivant.
Physiquement, il a eu un impact sur vous aujourd'hui, ce cancer? Est-ce que vous avez gardé des séquelles?
Oui, tout à fait, oui, des séquelles. Je peux plus plier ma jambe droite, en fait, mais même là je me plains pas encore, parce que normalement à l'époque j'aurais dû être amputé, hein. C'était la solution standard, c'était de couper la jambe. J'ai eu la chance de pouvoir participer à des protocoles expérimentaux, donc j'ai gardé ma jambe. Par contre, elle est droite, elle est raide, je peux plus la plier.
Oui.
Donc c'est sûr qu'il faut adapter son quotidien.
Mmh. Je me retourne vers vous, Muriel Delorme. On écoute Nicolas. Raconter comment il a appréhendé ce diagnostic. Il était adolescent. Est-ce que ce diagnostic, il s'appréhende différemment que l'on soit un enfant ou un adolescent ?
Oui, il y a quand même beaucoup de différences parce que l'enfant ne va pas avoir d'idées préconçues sur le sujet. Mmh. À l'adolescence, déjà, le propre de l'adolescence, c'est qu'il a quelque part très peur de la différence. Mmh. Et la maladie va plonger l'adolescent dans quelque chose du tout autre. Et cette comparaison qui fait sans cesse au groupe de pères et à être le plus admis dans le groupe de ses pères, il va changer de groupe et il ne va plus être dans le même groupe. Et ça va être difficile. Et s'il assume complètement sa maladie et son histoire, il va découvrir le goût de la liberté, le goût de se sentir unique. Et c'est pour ça qu'on voit souvent que ce sont les enfants ou les adolescents qui vont protéger leurs parents. Et ils ne vont pas forcément confier ce qui les inquiète à leurs parents, mais plutôt à la psychologue. Au début, ils vont envoyer bouler la psychologue parce qu'ils ne vont pas voir l'intérêt de cette écoute-là.
Ouais.
Et puis, tout d'un coup, ils vont découvrir qu'on peut parler de la mort, qu'on peut parler des angoisses, et que ça ne les fait pas venir, et au contraire, que ça apaise de pouvoir en parler. Mmh. Et ça va être un champ de liberté énorme. Et il y a une soif vraiment de vérité chez l'enfant, même tout petit. Hein, je dis souvent que les bébés, même s'ils ne comprennent pas les paroles, ils comprennent ce qui se passe, un peu comme, je ne sais pas si vous ne parlez pas italien et qu'on vous met une musique italienne très triste et qu'on vous dit que c'est une musique joyeuse, ben vous n'êtes pas dupe.
Non.
Et l'enfant ne comprend pas forcément les paroles, mais il comprend très bien la tonalité de ce qui se passe.
Ouais.
Dès le tout petit, et les enfants savent par le langage corporel de leurs parents si c'est grave ou pas grave. Les enfants me disent, j'ai vu, papa, il bouge son pied pas comme avant, et maman, elle rit pas comme avant. Donc j'ai su que c'était très grave en voyant ça.
Mm-hmm.
Et l'adolescent, lui, bien sûr, il va essayer de comprendre, il va essayer de
Oui, puis l'adolescent va plus obligatoirement se projeter parce qu'il en a les moyens, il a déjà plus de vie derrière lui. Vous restez en ligne avec nous, Muriel Delorme, vous allez continuer à nous accompagner et à nous donner vos éclairages sur le quotidien de ces enfants et de ces parents qui affrontent la maladie. Merci beaucoup Nicolas pour votre appel. Quelle heure est-il à Philadelphie ?
10h30 du matin.
D'accord. Eh bien, la journée a déjà bien commencé pour vous et je vous la souhaite très bonne. Merci pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Claire. Elle est la mère d'un jeune adulte, Marc, qui est atteint d'une maladie orpheline.
Europe 1. À quoi ressemble la vie d'un enfant malade, la vie de sa famille ? On vous attend au 39-21. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix. Votre enfant est malade, hospitalisé, avec des traitements lourds. Vous nous racontez votre histoire au 39-21.
Et nous accueillons maintenant Claire sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Claire.
Bonjour Olivier.
Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Claire ?
Alors, j'ai 50 ans et je vous appelle d'Orléans, juste en dessous de Paris.
Oui, la belle ville d'Orléans. C'est pas très loin de... Beaucoup de Parisiens passent à Orléans. Vous savez que c'est très beau, Orléans. Hein. En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ceux qui ne sont pas passés à Orléans, eh bien, vous êtes passés à côté d'une très belle ville. Vous êtes la maman de Marc, Claire, qui a aujourd'hui 19 ans. De quoi est-il atteint exactement ?
Alors, Marc est atteint du syndrome de Netherton. En fait, la partie visible de l'iceberg, c'est refaire sa peau tous les jours.
Oui.
Sauf qu'on refait sa peau tous les jours, mais lui, nous, on la refait une fois par mois, mais lui, il la refait tous les jours. Et ça se fait de manière intérieure comme extérieure.
D'accord.
Et donc, sa maladie, elle touche tous les organes.
Dès sa naissance, vous aviez compris que quelque chose n'était pas normal. Ça a commencé tout de suite.
Oui, tout de suite, quand on a vu notre bébé arriver avec son papa, on s'est dit, oh, un bébé, c'est pas comme ça à la naissance, est vraiment dans les ennuis.
Mmh. Alors, quel a été votre plan de bataille tout de suite, parce qu'il est allé directement à l'hôpital, ce bébé ?
Oui. Moi, je l'ai vu 30 secondes sur moi et après, les médecins ont décidé de l'emmener en néonatologie.
Oui.
Et le plan de bataille que nous, on a eu, c'est de chercher comment le soigner, comment amoindrir les symptômes, ses douleurs, parce qu'il était très douloureux. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Mmh.
Vous avez mis votre vie entre parenthèses. Expliquez-moi, oui. Voilà, lorsque on affronte une telle épreuve, comment le quotidien se transforme-t-il ?
Ah, le quotidien, c'est on renonce à une vie, à une carrière, à une vie sociale, à des passions,
oui.
Et on se met en route pour les instants de soins, c'est-à-dire emmener notre enfant chez le médecin, chez le dermatologue, chez l'ophtalmo, chez le kiné, chez le réflexologue, mmh. Et trouver des produits qui puissent être mis sur son corps, parce que Marc est intolérant aux conservateurs, dont les sulfites.
Ouais.
Et les sulfites, il y en a partout.
Mmh. Je suppose que tous les jours... en fait, c'est l'application de crème spéciale. Comment se passe une journée pour Marc aujourd'hui?
Alors, en termes de soins il y a le matin où il est obligé de se pommader avant de partir.
Ouais.
Après, il est obligé de manger énormément parce que sa maladie lui demande 6000 kilocalories par jour, alors qu'un jeune adulte, c'est 3000 kilocalories par jour. Donc, c'est fractionner ses repas, c'est aller en cours quand il le peut, parce que quand la maladie et les douleurs sont trop prégnantes, il n'y va pas.
Ouais.
C'est ça. Ensuite, il faut trouver... jongler entre les cures, entre les voyages en Géorgie pour les phages, parce que Marc n'a plus à des bactéries résistantes, et donc on n'a plus qu'une famille d'antibiotiques pour lui en France.
Ouais.
Et donc on a été obligé de chercher d'autres moyens de soins pour le soigner.
Et pourquoi la Géorgie? Pourquoi la Géorgie?
Parce que c'est elle et seule qui utilise. Alors, c'est elle et seule qui ont accepté le dossier de Marc pour l'utilisation de phages. Parce que nous, en France, on ne les utilise plus depuis 1970.
Oui.
Alors que c'est important d'avoir ces phages en utilisation. Et alors que dans les anciennes républiques soviétiques, eux, ils l'utilisaient encore. Et par contre, en Pologne, ils n'autorisaient pas... l'utilisation des phages pour les mineurs. Et en 2016, quand les médecins m'ont dit il faut trouver un autre moyen de soigner Marc en plus de l'antibiothérapie au long cours en France, et c'est là que nous, on a proposé les phages, et ils ont dit ok, partez.
Pardonnez-moi Claire, est-ce que vous pouvez expliquer ce que sont les phages?
Oui, les phages, ce sont des virus qui s'attaquent aux bactéries qui sont dans notre corps. Et une fois qu'ils ont intégré leur ADN, ils détruisent les bactéries néfastes.
Oui.
Et une fois que cette destruction a eu lieu, les phages, eux, s'autodétruisent.
Mmh.
Et c'est de manière naturelle, donc il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas de réaction d'intolérance comme Marc a... à d'autres médicaments.
Bon, donc je suppose que comme vous allez en Géorgie, cela traduit que vous n'êtes pas aidé financièrement. J'aimerais savoir d'abord comment va Marc aujourd'hui, et puis quel message vous souhaitez faire passer aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1.
Alors Marc va mieux. C'est compliqué de dire qu'il va bien, puisque... aucune des thérapies, que ce soit l'antibiothérapie française et les phages, ne peuvent être arrêtées. Ça le maintient en vie.
Oui.
Il ne nous a pas refait de septicémie depuis 3 ans.
Mmh.
Donc la problématique, c'est que ça coûte très cher. C'est comme pour les cures thermales de Marc. Marc peut aller en cours une semaine à 15 jours, mais pas les 21 jours qui ouvrent droit au remboursement.
Mmh.
Et on a besoin que ces... pathologies-là puissent être prises en considération pour ouvrir des remboursements qui ne sont pas ouverts actuellement.
Mmh.
Parce que, par exemple, les produits dermatologie sont considérés comme du confort, mais nous, les produits sont vitaux à Marc.
Oui.
S'il ne se pommade pas, il ne peut pas bouger. S'il n'a pas ses cures, il ne peut pas vivre. S'il n'a pas les traitements par phage, il va régresser.
Mmh.
Donc on a besoin que ces traitements soient remis en remboursés pour les cures, malgré qu'on ne va pas pendant 21 jours.
Ce qui tient, finalement un peu de choses, parce que voilà, c'est, si j'ai bien compris, en fait, c'est parce qu'il ne peut pas y aller plus de 15 jours que vous ne pouvez pas être remboursé.
C'est ça, exactement. Ouais. Les soins en cure thermale sont très efficaces, sauf que Marc, lui, il a une couche de peau en moins, donc oui. Elles peuvent provoquer des effets indésirables, mais nous, c'est au bout de 15 jours. Donc au bout de 15 jours, on est obligé d'arrêter.
Il est obligé de rentrer à la maison. On aura bien compris. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, et j'espère que peut-être un des responsables de ce genre de décision qui vous a entendu aujourd'hui, Claire, pourra peut-être considérer qu'entre 15 jours et 21, ça fait 6 petits jours et que ça changerait vraiment la vie de ce garçon. Donc j'espère que vous allez arriver à vos fins, Claire. En tout cas, courage à vous, courage à Marc, bien évidemment, et puis vous l'embrassez pour nous. Dans quelques instants, nous serons avec Fleur. Elle a été atteinte d'une leucémie lorsqu'elle était enfant.
Et le message de Carole sur Twitter, « Psy pour enfants malades, je voudrais dire que ces enfants et leurs parents m'impressionnent encore tous les jours, leur force, leur courage, leur pugnacité, et souvent, ce sont les enfants qui portent leurs parents. Bravo à ces petits héros du quotidien. »
Europe 1.
On parle des maladies pédiatriques, comment vivre malgré l'épreuve. Olivier Delacroix vous écoute au 39-21, tout de suite. Vous retrouvez Olivier Delacroix et nous parlons des maladies pédiatriques, comment vivre malgré l'épreuve quand son enfant est malade.
Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Fleur. Bonjour Fleur, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour tout le monde.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Fleur?
J'ai 26 ans et j'appelle de Paris.
D'accord. Alors aujourd'hui, vous dites que vous êtes quelqu'un dont on ne peut plus classique, mais lorsque vous étiez petite, vous avez été atteinte d'une leucémie. Quel souvenir vous gardez de cette période ? Ah, on a perdu Fleur, me semble-t-il. On va la rappeler tout simplement. Nous sommes en train de rappeler Fleur. Et Fleur va revenir. Allô Fleur, vous êtes de retour ?
Oui. Oui, problème technique, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Non, moi non plus. Mais donc j'étais en train de vous demander quel souvenir vous gardiez de cette période où vous étiez atteinte de cette leucémie.
Aujourd'hui, étonnamment bon, parce que j'ai eu la chance d'avoir vécu des choses qui étaient assez incroyables pendant cette maladie et j'ai aussi une famille qui m'a appris à beaucoup positiver. Oui. Donc peut-être naturellement les bons souvenirs sont restés, bien sûr quelques moments très difficiles, notamment les opérations, les ponctions lombaires, des choses comme ça, voilà, restent encore dans l'esprit. Mais en globalité, aujourd'hui je prends ça comme une force plutôt qu'une mauvaise épreuve.
Cette famille qui vous a tellement entouré, vous en parlez souvent, puisque je sais que vous êtes très lié avec vos sœurs. En quoi elle vous a porté ?
Parce que j'ai trois sœurs, donc on est quand même une famille nombreuse, et ça a été quand même une force dans le sens où je voulais pas forcément qu'elles s'inquiètent, donc on essayait de garder le sourire, et comme on dit, avec le sourire, on peut avoir beaucoup de choses. Et donc j'essayais d'être une enfant normale, une petite sœur la plus normale possible, bien que j'étais à l'hôpital, et quand on avait des moments précieux ensemble, ce qui n'était pas toujours le cas, on essayait d'en profiter à fond, et c'est quelque chose qui a duré bien après ma maladie, et aujourd'hui, on est un peu aux quatre coins du monde chacune, mais on ne reste pas un jour sans se parler, donc même encore aujourd'hui, ça reste une force.
Est-ce que vous reparlez de cette période ensemble ou c'est vraiment maintenant dans le passé et on n'a plus besoin d'aborder ce moment-là ?
En toute transparence, je pense que c'est quand même un peu un sujet tabou dans le sens où j'ai donc trois sœurs. La plus vieille a vécu ça avec beaucoup plus de souvenirs vu qu'elle était plus vieille et donc avec beaucoup plus de souvenirs. Mais on essaie de ne pas trop en parler, mais ça reste quand même un sujet qui touche mais on avance quand même et bien que ça reste dans nos cœurs, on essaye de pas s'apitoyer, de plus voilà que tout le monde ça soit une force pour la famille plutôt qu'une épreuve.
Alors vous avez été accompagnée par l'association les Petits Princes qui réalise les rêves des enfants malades. Justement, Exactement. Quels étaient vos rêves à l'époque?
Mon premier rêve a été de rencontrer la Belle au bois dormant. J'avais 4 ans. Ouais. Aujourd'hui, on voit les photos, ça peut paraître ridicule, mais j'ai le souvenir d'un des plus beaux moments de ma vie où elle m'a offert même une petite peluche qui est le personnage de Bambi, Fleur.
Ouais.
Et cette peluche, 20 ans après, même plus de 20 ans après, je l'ai encore. Donc,
et ça n'est pas du tout ridicule du tout, ça, je vous le dis. Mais non,
ça n'a rien de ridicule. Les petits princes ont été vraiment une grande partie de ma guérison et je sais que des personnes comme Yvette ou Dominique qui sont les fondatrices des petits princes oui. sont des personnes qui resteront dans mon cœur et bien que la vie fait qu'on se donne pas des nouvelles tous les jours, c'est pas pour autant que je pense pas à elles mm-hmm. et ma vie fera que peut-être bientôt je pourrai leur rendre l'ascenseur, je l'espère. Mais c'est vrai que ça a été une très belle association qui nous a permis de vivre des moments familiaux incroyables.
Mmh. Quel message vous souhaitez faire passer aux enfants, aux ados et surtout à leurs parents qui nous écoutent aujourd'hui et qui vous entendent, qui entendent ce petit rayon de soleil, de vivacité dans votre voix la vie dans votre voix?
On vit une épreuve qui est assez originale, assez inédite, mais ça reste une épreuve de la vie et il n'y a pas de petites épreuves, il n'y a pas de grandes épreuves, c'est une épreuve et chacun la vit comme il le pense et comme il le souhaite et que rien n'est grave tant qu'on est bien entouré et qu'il ne faut pas hésiter à en discuter avec sa famille, à discuter ce qu'on ressent, nos peurs, nos craintes, nos douleurs, nos joies. Et à partir du moment où on extériorise beaucoup de choses et on essaye de relativiser, beaucoup de choses sont possibles, bien qu'on vous dise que les chances sont minimes ou que c'est pas forcément facile. N'importe quel rêve est réalisable. Les petits chemins m'ont bien montré. Donc faut juste continuer à croire en ses rêves et quand c'est un peu plus dur, on est entouré, que ça soit de la famille, des associations ou de n'importe quel soutien, faut le prendre parce que c'est très important et il faut pas avancer seul.
Merci beaucoup Fleur pour votre beau témoignage qui conclut cette émission. Merci aussi à Céline, à Nicolas et à Claire de nous avoir appelés. Merci à Muriel de Rome pour ses éclairages, pour ses conseils. Accompagner un enfant malade est un combat de chaque instant face au cataclysme. Eh bien, on l'a vu, chacun a sa façon de faire face. Pour reprendre Muriel Delorme, la plus grande liberté réside dans l'acceptation. Et puis, il faut se battre, ne jamais s'avouer vaincu, vient de nous le dire Fleur. Toujours que l'espoir soit là. La recherche avance et de nombreuses associations accompagnent aujourd'hui les enfants malades. Bien évidemment, les Petits Princes dont on vient de parler, mais je pense aussi à Imagine for Margot ou Main dans la main. Une course solidaire sera d'ailleurs organisée le 24 mai prochain à La Défense pour collecter des fonds pour la lutte contre le cancer des enfants. Et ce soir seront diffusés les deux premiers épisodes de la saison 2 des Bracelets Rouges sur TF1 à 21h. Une série pleine d'émotions qui suit le quotidien d'adolescents malades et où l'espoir est bien présent.
Vous pouvez continuer bien sûr de discuter de ce sujet, de toutes les autres émissions sur Facebook, le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, Instagram Olivier Delacroix officiel et vous n'hésitez pas à échanger avec Sophie Peters, la libre antenne d'Europe 1 dès 22h30 jusqu'à 1h du matin ce soir.
Europe 1.
Demain nous parlerons ensemble de l'usurpation d'identité, un phénomène qui touche des milliers de personnes. Alors comment s'en protéger et comment s'en sortir? N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, n'est-ce pas Online?
Bien sûr, Facebook et puis sur Twitter avec le hashtag Europe 1.